France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, le compositeur Joseph Kosma, deuxième partie. Musicien trop méconnu du XXe siècle, Joseph Kosma a pourtant eu une production riche et éclectique où les musiques de films et les chansons occupent la plus grande place. C'est bien sûr sa longue collaboration avec le poète Jacques Prévert qui a le plus marqué les esprits au cœur d'un parcours assez mouvementé. Juif hongrois passionné de musique depuis son plus jeune âge, formé au conservatoire de Budapest auprès de Béla Bartók, Joseph Kosma s'est exilé en 1929 à Berlin, où il a accompagné la troupe de Bertolt Brecht, puis en 1933 à Paris, où il a rencontré Prévert et a commencé à travailler avec lui. Après la dissolution du groupe Octobre en 1936, Kosma consacre l'essentiel de son travail de composition à la musique de film. Il collabore avec Marcel Carné pour Jenny, où il apparaît même dans le rôle d'un joueur d'harmonium. Le jeune Mouloudji devait y chanter « Cozy Corner » sur un texte de Prévert, hélas censuré, car considéré comme offensant pour nos alliés anglais. Jean Vienner composera plus tard une nouvelle musique sur ce texte. Kosma travaille ensuite avec Jean Renoir, qui va lui commander la musique de la plupart de ses films jusqu'à la guerre. Une partie de campagne en 1936, mais qui reste inachevée, La Grande Illusion en 1937, puis La Bête Humaine en 1938.
Depuis La Grande Illusion, vous êtes le musicien de presque tous les films de Renoir. Comment est-ce que ça se passe avec Renoir, quand vous travaillez avec lui?
Ça se passe exactement comme il traite, par exemple, des acteurs. Vous savez que c'est un metteur en scène qui sait presque le mieux faire jouer les acteurs. Alors, il raconte la situation, il raconte l'esprit de film, il raconte tas d'histoires qui n'ont rien à voir avec le film, jusqu'à il nous emmène pour comprendre, pour sentir ce qu'il veut, ce qu'il exige le film, sans imposer, il impose quand même plus que n'importe qui. Vous savez, c'est passionnant.
Jean Renoir aime la chanson et l'utilise parfois dans ses films. La Grande Illusion comprend ainsi plusieurs reprises de refrains plus anciens, Froufrou, chanté par Jean Gabin, et Si tu veux Marguerite, entonné par Carette. Peu après, c'est l'histoire de la Marseillaise qui inspire au réalisateur le sujet d'un film sur la Révolution française qui entre en résonance avec le climat du Front populaire. Renoir y incorpore des musiques anciennes et nouvelles auxquelles Joseph Kosma contribue. Au même moment, il compose la musique d'un film de propagande pour le Parti communiste, Le Temps des Cerises, réalisé par Jean-Paul Le Chanois. Côté chanson, Joseph Kosma continue sa collaboration avec Jacques Prévert. Après les deux titres gravés par Florel, Embrasse-moi en 1934 et À la belle étoile en 1935, Marianne Oswald est la première chanteuse à interpréter Prévert de façon suivie. Personnalité tourmentée, née en Lorraine dans une famille juive, elle a aussi connu son époque berlinoise avant de venir à Paris au début des années 30. Elle est notamment la créatrice de « La chasse à l'enfant », un texte de Prévert mis en musique par Cosma, inspiré par la révolte du bagne d'enfants de Belle-Île-en-Mer durant l'été 1936, où les touristes se sont joints aux policiers pour rattraper les jeunes fugitifs. Prévert aurait même voulu faire avec Marcel Carné un film intitulé « L'île aux enfants perdus », mais la menace de la censure les a fait renoncer à leur projet.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que c'est hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis.
Durant la même séance, la rousse Marianne Oswald enregistre « Les Soutiers », un texte du journaliste et écrivain Gaston Bonheur, mis en musique par Cosma, qui décrit avec force la fournaise des salles de machines dans les paquebots à vapeur. Les passages de Marianne Oswald dans les musicals parisiens déclenchent des polémiques, voire des scandales. Au contact des poètes engagés comme Prévert, elle incarne une forme de réalisme poétique. Cette représentation du monde assez sombre est très présente dans le cinéma français des années 30, celui de Marcel Carné, Jean Grémillon, Jean Vigo, Jean Renoir et quelques autres. Jacques Prévert est l'un des principaux dialoguistes de cette école où la misère sociale et l'injustice relèvent davantage d'un destin funeste que de causes matérielles. Habitué à souligner ainsi les enjeux dramatiques, Prévert écrit des poèmes de la même veine, dont certains sont mis en musique par Joseph Cosma. L'un des plus fameux et aussi des plus noirs, « La grasse matinée », daté de début 1937, est aussitôt adopté par Marianne Oswald.
« Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire doucement, il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure 3 jours. 3 nuits sans manger.
Cette chanson a été gravée lors de l'avant-dernière séance d'enregistrement de Marianne Oswald pour Columbia en novembre 1937, dont le disque ravit ses aficionados mais ne se vend guère. Lassée de son manque de succès public en France, elle finira par prendre le bateau début 1939 pour tenter sa chance à New York, sans imaginer alors qu'elle y restera 8 ans, vivant une sorte d'exil forcé durant toute la période de la guerre. Marianne Oswald laissera ainsi la place à un autre personnage essentiel de la chanson poétique et engagée. Agnès Capri est en effet l'autre interprète féminine qui défend les œuvres de Jacques Prévert durant les années 30, mais avec des moyens vocaux radicalement opposés. Elle a fait la connaissance de Prévert vers 1933 au sein de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires et commence à chanter début 36 au cabaret Le Bœuf sur le Toit. L'une des premières œuvres de Prévert qu'elle adopte s'intitule « La pêche à la baleine », dont voici l'enregistrement qu'elle a réalisé en 1951 pour le label « La boîte à musique ».
À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils, Prosper, sous l'armoire, allongé. À la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller ? Et pourquoi donc ?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une baleine qui m'a rien fait, papa ?
Va la pêper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. Moi, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démonté. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allée. Et pourquoi donc je n'ai pas été ? Peut-être qu'on l'aurait attrapé alors. J'aurais pu en manger.
Début 1937, Prévert signe la chanson antimilitariste « Familiale », mise en musique par Cosma et créée par les duettistes Gilles et Julien, dont l'enregistrement chez Columbia ne sera pas commercialisé. Afin d'améliorer son ordinaire, Joseph Cosma devient pour quelque temps le pianiste de la chanteuse Lise Gotti, dont le répertoire oscille entre chansons populaires et poétiques, parfois même d'avant-garde. Elle aime s'entourer d'auteurs et musiciens de talent, notamment des réfugiés d'Allemagne ou d'Europe centrale comme Norbert Landsberg et donc également Joseph Cosma, qui grâce à leur tournée va découvrir la France. Ce dernier compose pour Lise Gotti au moins deux chansons en 1938, « La Garce » dans la veine réaliste et « Dis-moi pourquoi » pour les besoins du film « La Goualeuse », le seul tourné par la chanteuse sous la direction de Fernand Rivers.
« Dis-moi pourquoi les plus beaux jours sans toi sont tristes. Pourquoi sans toi mon cœur n'a plus aucune joie. Dis-moi pourquoi tout devient noir, plus rien n'existe. Sans toi, la vie n'a plus d'attrait pour moi. Aucun sourire, aucun ami, aucun espoir de bonheur. Quand tu me quittes, j'ai peur. Tout me chagrine et tout m'ennuie. Dis-moi pourquoi les plus beaux jours sans toi sont tristes. Pourquoi sans toi, la vie n'a plus d'attrait pour moi.
Outre Lise Gotti, Joseph Cosma accompagne au piano un duo de jeunes chanteurs au répertoire social engagé, les frères Marc, dont l'un des deux est le futur Francis Lemarque. Tous fréquentent la Maison de la Culture, dirigée par Louis Aragon, rue d'Anjou, à Paris, qui est devenue un vrai lieu de rencontre et d'émulation artistique. Agnès Capri continue pour sa part son parcours exigeant. Elle est à l'origine du mouvement des cabarets qui vont éclore sur la rive gauche de Paris après la guerre. Sur le modèle des cabarets berlinois des années 20, elle ouvre fin 1938 sa propre boîte au 5 de la rue Molière, près du Palais Royal, où elle se livre à différentes expériences littéraires et musicales en s'entourant de nombreux jeunes talents, comédiens et chanteurs. C'est là que l'actrice Germaine Montero fait ses débuts comme chanteuse avec un répertoire de chansons traditionnelles espagnoles recueillies avec Federico Garcia Lorca. Elle les a rapportées en 1936 lorsqu'elle fut obligée de fuir la guerre civile en Espagne.
Tour de chant, Martin Penet, France Musique.
No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora. No hay quien pueda por ahora. Si de
te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid, capital a Madrid, capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora. Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid, capital a Madrid, capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda por ahora.
Dans le cabaret d'Agnès Capri, Germaine Montero fait la connaissance d'un habitué nommé Jacques Prévert, sans imaginer qu'elle le retrouvera 2 ans plus tard en pleine occupation. Certaines des œuvres de Joseph Kosma sont éditées par Daniel Enoch, mais comme la SACEM refuse l'adhésion des réfugiés politiques, le compositeur entre dans un premier temps à la société d'auteurs suisse, la Suiza. À la veille de la guerre, il a toujours la nationalité hongroise. Mais dans le climat de suspicion à l'endroit des ressortissants étrangers demeurant sur le territoire français, cela n'augure rien de bon. Début 1939, il compose la musique de La Règle du Jeu, le dernier film de Jean Renoir tourné avant la guerre. Puis, répondant aux menaces grandissantes de conflits, il s'engage en mai 1939 dans la Légion étrangère. Mais trop rêveur et pas très costaud, il se voit rapidement réformé. Il rentre alors à l'automne dans un Paris lugubre, celui de la drôle de guerre qui entre-temps a été déclarée. Il retrouve Prévert et ses amis, dont certains ont également été réformés. Joseph Kosma met alors en musique un texte d'Agnès Capri, Le Grand Type, inspiré par une histoire personnelle, qu'elle chante dans son cabaret et enregistre en janvier 1940 sur un disque de sa propre production, dont les exemplaires sont aujourd'hui devenus rarissimes.
Il y a entre nous des histoires de lucioles, de fenouilles et de clairs de lune, des histoires de coups de soleil et de coups au cœur, de nuits d'amour et de rendez-vous manqués, de tromperies, d'abandon, des yeux dans les yeux, des heures et des heures, de froid aux pieds, de mal au ventre, de coucher sur la paille, de petits déjeuners en commun avec beaucoup de croissants et de confitures d'orange. Et surtout, des histoires d'amitié éternelle et de tendresse à n'en plus finir. Maintenant, il est parti pour la guerre avec sa grande allure calme, son air simple et naturel. À la Gary Cooper, à la Gary Cooper.
Par ailleurs, Kosma continue à travailler avec Prévert. En 1940, il met en musique « Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte », un texte de la veine surréaliste qui séduit Lise Gotti. Elle en fera une gravure chez Columbia en janvier 1941, mais qui ne sera pas commercialisée. Durant l'exode de mai-juin 1940, Prévert et ses amis arrivent tant bien que mal à rejoindre Pau, puis après l'armistice, le Midi. Kosma, lui, est évacué dans un village du Béarn, où il se fait embaucher comme ouvrier agricole, puis à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, où les réfugiés sont installés sur la plage dans des cabines en bois. Assigné à résidence en tant que juif, Kosma devra attendre de longs mois avant que son ami Prévert parvienne à lui obtenir l'autorisation administrative de changer de département pour rejoindre sa bande, établie au village de Tourette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. À Paris, au début de l'occupation, Agnès Capri rouvre son cabaret, qui tiendra encore une petite saison avec le spectacle Les Farfelus et une jeune troupe renouvelée, comprenant notamment le jeune Serge Reggiani et la future Cora Vauquer. Mais la situation des Juifs devient de plus en plus délicate et Agnès finit durant l'été 1941 par rejoindre la Côte d'Azur. C'est là qu'elle monte son premier véritable récital, dans lequel les œuvres de Prévert occupent une bonne place, qu'elle présente durant l'automne de façon itinérante à travers la zone libre, de Nice à Marseille, de Lyon à Grenoble. Parmi les textes mis en musique par Cosma figurent « Deux escargots s'en vont à l'enterrement »,« Dans ma maison », »,« Le gardien de phare » et « L'orgue de Barbarie ». Au mois d'octobre 41, Agnès Capri fait à la Radiodiffusion nationale, alors contrôlée par Vichy, toute une émission consacrée à Jacques Prévert, dont il ne subsiste hélas aucune trace sonore. Elle reprendra plusieurs de ses titres en 1949 dans le spectacle Zigzag, qui lui sera bien capté par la Radiodiffusion française. À cette époque, elle livrera sa conception assez particulière du rôle de la musique par rapport à la poésie.
Dans ma maison, un jeune homme dans une maison attend celle qu'il aime, et en l'attendant, il se raconte tout ce qui lui passe par la tête, au Prévert et Cosma.
C'est l'opinion que j'ai aujourd'hui.
Oui, c'est votre avis d'aujourd'hui.
Je trouve que son œuvre est plus une suggestion poétique que de la poésie. Et qu'en le disant, il faut suggérer le poème qu'il a voulu écrire.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut être poète soi-même pour le livrer au public sans le trahir. Et savez-vous chaque soir comment vous le direz?
Oh non, non, je ne sais jamais comment je vais le dire. Pour le chanter, c'est plus difficile. C'est peut-être parce que je chante plus difficilement. Le poème mis en musique, c'est vraiment une gageure. Il faut suivre à la fois la loi musicale et la loi poétique. Enfin, je sais que c'est très connu. La ligne musicale et le sens du poème. J'aime et j'admire Cosma, mais malgré son talent, il rend le poème un peu opaque.
Opaque? Il y a des gens qui vont trouver que le mot est dur.
Non, enfin, si c'est un vrai poème, il a sa musique propre. Et l'autre musique veut s'imposer à sa place, à la place de la musique du poème. C'est un duel. Le grand travail, c'est de faire disparaître la musique de la musique pour faire réapparaître celle du poème. Pour Cosma, il faut... Enfin, moi, je le hache en petits morceaux pour faire réapparaître Prévert dans les interstices. Ça met Cosma en colère, d'ailleurs. Et sa musique en souffre.
Dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viens.
C'est alors qu'une autre chanteuse entre dans le cercle de Prévert. Il s'agit de Germaine Montero. L'occupation l'a amenée à s'établir comme beaucoup d'artistes sur la Côte d'Azur. À l'automne 1941, elle participe au tournage du film « Le soleil a toujours raison » réalisé en Provence par Pierre Billon, où la vedette Tino Rossi chante plusieurs titres à succès, dont une composition de Joseph Cosma, « Tu étais la plus belle ». Répondant au souhait de Jacques Prévert de la voir chanter ses chansons, Germaine Montero décide au tout début de l'année 42 de monter un tour de chant accompagné par Joseph Cosma lui-même au piano. Quelques mois après Agnès Capri, Montero propose donc à son tour des œuvres de Prévert et Cosma dans les villes de la zone libre, en particulier les cabarets de Marseille et de la Côte d'Azur, à Nice et à Cannes. Elle effectue également un passage remarqué au Théâtre des Célestins de Lyon, comme elle le racontera à Hélène Azéra sur France Musique en 1998.
On a créé la Comédie de Lyon. Et un jour, Charles Gantillon, qui dirigeait le théâtre des Célestins, qui était devenu la Comédie de Lyon, a eu l'idée de faire une soirée de variété. Et il a eu l'idée saugrenue, parce que vraiment, de prendre deux interprètes, c'est-à-dire il y avait deux parties, Jean Bouillon et son orchestre, et moi. Vous vous rendez compte? Moi, avec Cosma au piano, chantant les chansons de Prévert. Alors, évidemment, moi j'ai tout le respect qu'on veut pour Jo Bouillon et son orchestre, c'était très bien, mais ça n'a aucun rapport avec Prévert et en plus Cosma au piano. Alors, eh bien ça a donné ce que ça devait donner, c'est-à-dire que Jo Bouillon a fait un triomphe, et quand je suis arrivée, moi j'ai commencé à peiner énormément, parce que le public ne répondait pas très bien. Et Cosma, je m'approchais de temps en temps du piano et Cosma me disait « Allons-nous-en, allons-nous-en !» Et je lui disais « Non, 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 je les aurai, ou plutôt nous les aurons. » Il me regardait comme ça avec ses grands yeux, il a l'air de dire « Mais elle est folle !» Et puis je savais qu'avec le cauchemar de chauffeur de taxi, je les aurais. J'ai toujours senti ça. Et c'est pourquoi je finissais toujours mon tour de chant par le cauchemar d'ailleurs. Alors bon, je suis arrivée à ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai chanté le cauchemar du chauffeur de taxi, j'aime mieux vous dire que je l'ai chanté alors cette fois-là en y mettant tout mon cœur, vraiment. Et je les ai eus à tel point que le lendemain, toute la presse était pour moi en disant le courage que j'avais eu et que c'était moi qui avais raison, etc., etc. Alors voilà.
Un taxi s'arrête, des êtres humains descendent, l'un d'eux paie le chauffeur s'en va avec son taxi, un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir. Des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan de métropolitain. Alors il prend sa tête entre ses mains. Alors il prend sa tête entre ses mains. Et il se plaint tout doucement. 222 rue de Vaugirard, 33 rue de Ménilmontant, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, Grand Palais, Saint-Lazare, Grand Palais, Gare Saint-Lazare, rue du dernier des Mohicans, place du colonel Rochenot, avenue du gros barbu, boulevard des trois idiots. Taxi, 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 taxi pour la sortie. Taxi pour le grand prix. Taxi pour le pince-fesse. Taxi pour la comtesse. Taxi pour le cocktail. Taxi pour les affaires. Taxi pour la grande guerre. Taxi, 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 taxi pour le cimetière.
Au début de l'année 1942, Joseph Cosma travaille en parallèle pour Agnès Capri, qui monte un nouveau spectacle et fait appel à lui pour des mises en musique, en particulier la chanson du mal-aimé d'Apollinaire et un texte d'elle intitulé « Les voleurs d'enfants ». Ce récital mêlant, comme à son habitude, chansons et poésie, sera proposé à l'Opéra de Monte-Carlo en avril, puis en tournée dans les villes de la Côte, de Nice jusqu'à Montpellier et dans le reste de la zone libre. Mais les choses vont changer à la fin de l'année 42, car suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord début novembre, les armées allemandes vont envahir la zone libre, à l'exception du Sud-Est, occupée par l'armée italienne, réputée moins répressive envers les Juifs. Obligé tout de même de se cacher davantage, Joseph Cosma va travailler clandestinement pour le cinéma à Nice et livrer quelques partitions majeures des films de Marcel Carné, comme nous le verrons dans la prochaine émission. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette série de tours de chant sur le site francemusique.fr. Je remercie Dorothée Gol à la préparation, Valérie Lavalard à la technique, Lionel Quentin à la réalisation, Aude Vassan et Marine Decamp pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.